Nous voilà réunis, Philippe Bataillon et Julio Premat, pour parler de Juan José Saer, qui aurait dû effectivement être parmi nous aujourd'hui. Je n'ai pas apporté évidemment tous les livres de Saer. J'en ai apporté deux, l'occasion et l'anniversaire, qui sont des livres déjà anciens, parce que j'ai été frappé par le petit texte qui était cité en épigraphe de l'anniversaire, qui est celui-ci. « En celui qui se mourait, ma propre mort, je ne vis, mais en fièvre et géométrie, peu à peu s'enfurent les heures, et maintenant c'est moi qu'on pleure. » Alors, nous n'allons pas pleurer Juan José Saer, mais le célébrer grâce à deux spécialistes, à Philippe Bataillon, qui a traduit bon nombre de ses livres, une demi-douzaine, je crois, 6 livres, c'est-à-dire autant, à peu près, oui. Et vous, oui. Laure Bataillon, votre épouse, en avait traduit
6 autres.
Voilà, donc vous avez une connaissance parfaite de l'œuvre de Saer, et vous êtes encore en train de travailler à une traduction actuellement.
Oui, c'est ça.
Et Julio Premat, vous êtes né à Buenos Aires, vous enseignez la littérature hispano-américaine à Paris, à l'Université de Paris 8, et vous avez écrit de nombreuses études, dont une étude en particulier sur Saer, et vous avez également réalisé l'édition génétique, en particulier de l'anniversaire, hein, et d'un autre roman, je crois.
Oui, L'Ancêtre.
L'Ancêtre. Alors, je ne sais pas, il y a deux façons de procéder. J'aimerais qu'on évoque à la fois, et vous allez pouvoir le faire l'un et l'autre, à la fois l'homme qui était Saer, puisque vous l'avez bien connu, c'était un ami, on ne traduit pas Philippe Bataillon aussi longtemps, on ne fréquente pas d'aussi près un auteur sans devenir un ami. Et j'aimerais aussi, bien sûr, qu'on situe son œuvre dans la littérature. Alors, c'est une vaste tâche. Alors, on va commencer peut-être par un aspect pratique. Combien de livres... est-ce que tous les livres de Saer sont traduits, sont disponibles en français? Apparemment, il y en a un, le dernier, auquel vous êtes en train de travailler. Mais est-ce que vous pouvez dire deux mots de l'aspect traduction?
D'une manière quelquefois un peu chaotique, pratiquement tout a été traduit. Pratiquement tout, à part des nouvelles de jeunesse, publiées en 1960, dont une pourtant apparaît dans un livre paru chez Flammarion sous le titre de Quelque chose approche, qui est le titre justement de cette nouvelle de jeunesse, qui est un des textes de ce livre. Manque aussi un roman de jeunesse paru en 1966 en Argentine, qui s'appelle La Vuelta Completa, un tour complet. C'est un roman construit sur un plan circulaire qui est traduit, mais qui n'est pas paru. Et puis manque le prochain roman de Juan José Saer, le roman inachevé, puisque son dernier chapitre comporte une seule phrase et qu'il est mort avant de le finir. Et donc ce roman qui va être traduit, sur lequel je commence à travailler actuellement, qui est un gros roman, ça va me faire une année de travail et de bonheur avec Juan. Voilà.
Oui, de travail et de bonheur, on reviendra sur ces deux aspects, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de travail. Alors évidemment, c'est une tâche impossible que je vous demande, Julio Premat, de dessiner à grands traits la singularité de Saer.
Oui, donc de l'œuvre et pas du personnage.
Oui, enfin, de l'œuvre pour l'instant. Oui,
oui, disons qu'on peut dire que Saer a mené jusqu'au bout des possibilités l'écriture du roman contemporain, avec les contraintes qui sont les siennes, c'est-à-dire toute la difficulté, toute la négativité, tous les pessimismes qu'entourent la représentation du monde et la forme romanesque. Il les a assumés, non pas comme des impossibilités, mais comme des défis. Et il a essayé de prouver que malgré tout, malgré Auschwitz et Borges, non, on pouvait continuer d'écrire et qu'on pouvait écrire des grands romans. Et donc il a fait une œuvre qui a... Bon, on fonctionne par analogie pour les présentations. Et évidemment, il y a deux noms qui s'imposent, c'est Faulkner et Joyce, hein, qui ont peut-être été ces grands modèles dans la littérature romanesque du XXe siècle. Une œuvre qui est pensée donc comme, à la fois du côté de Faulkner, comme une cohérence, une unité, un cycle. L'action de ces romans se déroule toujours au même endroit. C'est un lieu à moitié inventé, à moitié référentiel, qui renvoie à la ville de Santa Fe et ses alentours, une ville de Provence argentine, d'où il est originaire, mais qui fait donc de ses lieux d'origine un lieu littéraire. Il disait que la métaphysique ou l'être s'exprimait avec autant d'intensité en Allemagne qu'à Santa Fe, donc que tout endroit, même Santa Fe, pouvait contenir et représenter les mondes, et il a essayé de l'éprouver par ses livres. Donc un cycle, comme Faulkner, autour des personnages récurrents et des problématiques récurrentes, et du côté de Joyce, une récupération très forte du caractère problématique du discours littéraire. La littérature comme un lieu des questions, des problèmes et non pas des réponses toutes faites, et aussi d'expérimentation formelle perpétuelle. Voilà. Je sais pas si...
Alors si, c'est très important, les deux points que vous soulignez, j'aimerais bien avoir tout de suite le point de vue de Philippe Bataillon, le point de vue du traducteur, sur ces deux aspects, c'est-à-dire à la fois cette cohérence interne qui pose évidemment des problèmes quand on traduit un grand nombre d'œuvres du même auteur, et puis toutes ces difficultés formelles que vous avez dû rencontrer dans une écriture, en effet, qui remet constamment en cause une réflexion même sur la possibilité d'une écriture romanesque.
Alors la cohérence, c'est effectivement, la cohérence est une chose absolument capitale dans l'œuvre de Saher, parce que... tous ces romans se passent dans la même zone, dans la même région, en la zona, comme il dit, pas tous à la même époque. Il y a deux ou trois romans qui font exception à l'époque contemporaine, qui sont d'abord L'Ancêtre, qui se passe au moment de la découverte du Rio de la Plata par les navires espagnols. Il y a ensuite Las Nubes, Les Nuages, qui est une histoire qui se passe vers 1840 à peu près à Buenos Aires avec un médecin aliéniste extrêmement progressiste, et c'est une chose très intéressante. Mais et puis il y a La Occasion qui se passe au moment de la grande vague d'immigration italienne en Argentine, et le personnage principal de La Occasion est quelqu'un qui organise, qui va recruter des Italiens pour l'Argentine, pour faire devenir des cultivateurs. Voilà. Toutes les autres œuvres, pratiquement, sont en relation, en réseau, les unes avec les autres, par l'intermédiaire de personnages communs, de références à des personnages communs. Et je viens de découvrir une référence supplémentaire, parce qu'il y a des textes de jeunesse que je n'avais jamais eu entre les mains, qui sont parus parce que l'édition de 1960 était épuisée, et dans un livre des nouvelles complètes de Saher, je trouve que le personnage principal, le personnage pivot du dernier roman qui s'appelle Gutiérrez, apparaît comme ça dans une brève nouvelle qui s'appelle Tango del Viu, le tango du veuf, et où on voit ce personnage d'une manière un peu énigmatique, mais qui va s'expliquer à plus de 40 ans de distance et prendre corps et devenir un personnage central. Alors, il y a donc ce réseau complet de références. Et c'est vraiment une chose passionnante, mais c'est une chose qui demande... Je passe mon temps, quand je traduis, à aller feuilleter d'autres livres pour retrouver exactement, pour resituer bien les personnages, pour resituer des choses et ne pas les traiter à côté de la question, pour que ça soit juste, que le réseau de cohérence reste exact. Voilà. Bon, il y a un personnage qui apparaît en 69 dans un livre qui s'appelle Cicatrice, qui est un personnage dont on n'entendra plus du tout parler dans toute l'œuvre romanesque de Saher, qui réapparaît tout d'un coup, un petit peu par accro dans le dernier roman, dans le roman posthume. Alors, pour ce qui est du travail de traducteur, ça c'est le travail de mise en cohérence des traductions. Pour le travail de traducteur, c'est vrai que traduire Saher, ce n'est pas une sinécure, mais, comment dire, déjà, traduire une œuvre banale, je pense, pour moi, ça m'ennuie. Bon, Ça m'est arrivé d'avoir des textes un peu banals à traduire. Je les ai faits sans difficulté, mais ça m'a ennuyé. Or, traduire Saher, ça n'est jamais ennuyeux. Bon, c'est jamais ennuyeux parce que c'est difficile. Alors, les phrases sont très complexes, très, très longues, très, très sinueuses, avec des incidentes très expressives. Il faut s'arranger avec tout ça. Il faut surtout garder la structure, parce que la structure est absolument capitale, et qu'en plus, alors c'est là que ça devient très bien, c'est qu'elle est parfaite. Traduire un auteur difficile et approximatif, ça doit être un enfer épouvantable. Traduire un auteur difficile et rigoureux, c'est passionnant, et on se retrouve, quand je dis un an de bonheur et de travail, c'est pas une blague, hein, c'est vrai, c'est ça.
Alors, cette rigueur et puis cette façon de réutiliser des personnages, comme le personnage de Gutiérrez qui apparaît donc tout au début de l'œuvre, est-ce que ça indique une manière particulière qu'avait Saher d'écrire ? Est-ce qu'il avait une espèce de plan général, justement, de cet univers romanesque qu'il voulait faire vivre ? Ou est-ce que chaque œuvre peut servir de noyau à une nouvelle ?
Disons qu'on pense toujours à Balzac, non ? Dans ce cas-là, avec ses généalogies, cette généalogie délirante des personnages. Mais Proust, qui, comme tout le monde, lisait les autres écrivains pour tirer la couverture à soi, disait que Proust n'avait trouvé l'idée de la comédie humaine qu'une fois que l'œuvre était écrite. Non ? Enfin, ça reste à discuter ou à prouver. Mais en tout cas, on pense au modèle de l'écrivain qui a tout prévu, qui a tout projeté. En tout cas, c'est l'impression qu'on a en lisant ça après. C'est un après-coup. Disons que on a l'impression que toute son œuvre était dans son premier livre des nouvelles publié en 1960 et qu'on y trouve pas seulement les personnages mais une tonalité, des situations qui vont se répéter, s'élargir, etc. Je ne sais pas, il y a des grillades, des asados qui parcourent toute l'œuvre, y compris des grillades cannibales en cours de route, et on trouve cette première grillade dans une des premières nouvelles. Mais disons que les systèmes de fonctionnement étaient de chercher toujours dans ce qui a été écrit les projets à venir. J'ai assisté à ça par hasard et il m'a dit un jour, par rapport au roman, son dernier roman, le roman posthume, comme ça on comprend un peu le fonctionnement. Non et, il écrit en 1963 un roman, le tour complet, la Vuelta completa, dont la suite, d'un point de vue narratif et d'intrigue, c'est l'anniversaire qui est publié en 1986. Et à la même époque de l'écriture de l'anniversaire, il prévoit une deuxième partie qui sera finalement la grande, le roman posthume. Donc, on peut dire qu'en 1963, il avait déjà 40 ans d'écriture projetée. Or, ce n'est pas exactement ça. Et il m'a dit, par rapport à ces romans qui étaient en début d'écriture, ça y est, j'ai trouvé qui va être le protagoniste. Pas Gutiérrez, c'est un autre personnage. J'ai trouvé le personnage. Et le personnage, évidemment, où il est dans une fiction précédente. Il ne s'agissait pas d'inventer un protagoniste, mais de choisir dans le répertoire de ce qui avait déjà été écrit, qui allait, pour cette version-là, occuper les devants de la scène. Donc, pour pouvoir écrire, la première chose qu'il faisait, c'est relire, n'est-ce pas ? Il y a un phénomène de réécriture, d'amplification permanente, qui donne finalement cette impression d'une cohérence hallucinante.
Enfin. Oui, mais alors la suite n'est pas forcément une suite chronologique. Quand vous dites qu'un livre vient succéder à un autre livre, ce n'est pas du tout, ce n'est pas la suite au sens classique du terme.
Non, pas du tout. Finalement, il n'y a pas du tout un ensemble cohérent et encore moins une saga, mais une espèce de cadence d'écriture, des répétitions qui fait constamment ou qui rend toujours possible de revenir sur quelque chose qui a déjà été écrit, de rajouter des péripéties latérales qui changeraient les sens. Donc, en fait, il n'y avait pas, c'est pas la suite qui mène vers un roman total et fermé, c'est une réécriture permanente de la même chose avec toujours la même incertitude et la même ouverture. C'est pour ça que la mort de Saher et l'arrêt de ses systèmes de production, et je pense qu'elle va changer profondément l'essence de l'œuvre, puisque nous lisions Saher en sachant que toute histoire était instable qu'une autre version, qu'une autre péripétie allait pouvoir venir dans les prochains épisodes. Alors, il n'y aura pas de suite. Donc, maintenant, le nombre d'apparitions de ces personnages est fermé, est arrêté. Et ça fait là un tout, sinon cohérent, au moins fermé. Et je pense que l'essence de cet ensemble est encore à définir, puisque le système de production s'est arrêté.
Mais on peut même peut-être dire que l'écriture de Saher est une façon d'affirmer que l'impossibilité de ce roman total est cohérent.
Oui, mais c'est écrivant un grand roman tout en disant que nous ne pouvons plus écrire des romans et que nous avons toute la lucidité sur les impossibilités d'écrire encore des grands romans. Les grands romans sont morts, les romans sont morts, l'auteur n'est personne, et pourtant la littérature et les romans valent la peine, il faut continuer d'écrire, donc écrivant sur cela, sur les doutes et sur les néants.
Oui, Philippe Attali.
Oui, pour la récurrence des personnages, je prends Gautier, par exemple, qu'on trouve très, d'une manière allusive, mais quand même assez précise dans le... Dans ces nouvelles de Enlason. On a l'impression que ce personnage est un germe possible. Ce n'est pas sûr qu'il sera utilisé. Rien dans sa première présentation ne laisse penser. Mais c'est une espèce de germe possible de développement. Et quand on prend ce qui est dit de ce personnage dans le roman posthume, et qu'on le compare aux quelques lignes de cette nouvelle, on s'aperçoit que le germe n'a pas été déformé, a été utilisé, a grandi, a fait une espèce d'efflorescence autour de cette graine d'origine. C'est un peu l'impression que j'ai. Et puis, il y a une chose, moi, qui me frappe aussi dans toute l'œuvre romanesque de Saher, en dehors des problèmes d'écriture, j'allais dire linéaire. Je lisais l'autre jour un livre sur Queneau, et on disait que Queneau avait dit que pour faire un roman, il ne suffisait pas de pousser devant soi un troupeau de personnages. Voilà. Et c'était bien du Queneau, il avait ce côté un peu vachard, comme ça. Mais c'est Quand Saher fait des romans, c'est des choses qui sont... Bon, c'est construit à l'intérieur d'un ensemble, mais chaque roman est construit sur des contraintes de temps, de lieu, qui sont des choses très importantes et sans doute très fécondes pour lui. Oui. Je pense à l'anniversaire en particulier. L'anniversaire, qu'est-ce que c'est ? Si on se borne à l'histoire... C'est l'histoire de deux types qui se rencontrent dans le nord de Santa Fe, qui font du nord au sud la rue San Martin, qui est la rue principale, et qui se séparent au bout de 55, ce qu'on pourrait évaluer...
55 minutes.
Oui, un peu moins d'une heure, j'allais dire. Je ne me rappelais plus le terme exact. Voilà. Et ces deux personnes vont parler sans arrêt, avec tous les développements que ça comporte, puisque justement, ils n'étaient pas témoins, de l'anniversaire d'un écrivain qui était considéré un peu comme le maître de tout ce monde-là, auquel ni l'un ni l'autre n'a assisté. Bon, alors, effectivement, tout ça donne des ouvertures à l'intérieur de la contrainte qui s'est fixée, qui sont absolument infinies.
Alors, quel est le rôle des contraintes, justement ? Est-ce qu'il s'agit d'une façon de rendre l'écriture possible dans une démarche presque oulipienne ?
Oui, mais enfin, c'est absolument vrai, comme dit Philippe, que ce sont des œuvres extrêmement construites et il avait une exaltation formaliste dans un certain aspect ou dans un certain moment de la préparation des œuvres. Il faisait il y avait des schémas et des graphiques pour représenter ou illustrer la forme. Et il a même écrit des textes où il disait il n'y a que la forme qui est susceptible de provoquer de l'émotion ou de la beauté. Mais en même temps, et en contrepoids à cette idée de la forme, il y a toute une récupération de la théorie freudienne sur la création, c'est-à-dire et la création comme quelque chose dans lequel on est parlé par quelqu'un d'autre qu'on ne maîtrise pas, et c'est au niveau de ce qui est dit à l'insu de la conscience et de la volonté, c'est là où se trouverait l'œuvre esthétique. Ce sont deux principes qui qui sont un peu contradictoires sur le plan théorique, mais qui fonctionnaient très bien sur le plan pratique. Et dans l'épigraphe que vous avez lu, et dans cet homme qui dit la vie est passée, j'ai pas vu la mort de l'autre, j'ai pas vu ma propre mort dans la mort de l'autre, et ma vie est passée entre fièvre et géométrie. Et on a beaucoup dit que cette opposition fièvre-géométrie, passion-forme, allait résumer les projets littéraires de Sahel. Donc une construction extrêmement rigide et qui donne lieu constamment à un dépassement à la fois lyrique et existentiel qui met en cause les principes en lui-même de la forme, je crois.
Alors, qui met aussi en cause l'expérience de la lecture, parce que la lecture de Saher, c'est une lecture très particulière. Lire un livre de Saher, c'est évidemment une découverte passionnante, mais quand on en lit plusieurs, comme l'expliquait tout à l'heure Philippe Bataillon, le système non seulement des personnages récurrents, mais du déséquilibre que les livres provoquent les uns par rapport aux autres, c'est une expérience assez singulière. Il me semble que je ne vois pas beaucoup d'auteurs chez qui on ait cette forme de, qui provoque cette forme de lecture.
Oui, mais disons que c'est un. Je crois que ça va bien au-delà des personnages, non ? Et il y a une marque stylistique déjà. Il y a des empreintes très importantes à la poésie, et c'est comme tant d'autres écrivains, c'est pas une spécificité, mais son écriture vient de la poésie. Et pendant des très longues années, il a écrit des poèmes, il a un peu arrêté sur la fin de sa vie. Jusqu'il n'y a pas très longtemps, il projetait encore d'écrire un roman à un vers. Et il y a un ton, hein, il y a un rythme, un ton, une cadence Saher qui se répète aussi, enfin qui est une musique, si vous voulez, qui se répète de livre en livre au-delà des personnages. Non, il y a déjà ça. Et puis, il y a une position existentielle. Des mises en question et mises en problème de la perception et une récurrence d'une espèce de regard halluciné et pessimiste sur le monde qu'on retrouve aussi des livres en livres. Donc il y a une série d'échos qui ne sont pas de l'ordre de la péripétie, n'est-ce pas ? On peut lire évidemment n'importe quel récit des Serres de manière autonome. Et on serait mal parti si on voulait connaître la suite de l'histoire dans les romans suivants, bien sûr.
Vous avez réalisé une édition génétique donc, de deux livres de Saher, donc vous connaissez parfaitement, y compris sa manière de travailler. Alors, comment travaillait-il précisément ? Comment réglait-il ce problème des contraintes formelles ? Vous dites qu'il avait des tableaux, peut-être ?
Et disons que c'est assez... C'est assez surprenant de voir de la part d'un écrivain aussi lucide, non ? Et qui a autant parlé des difficultés de raconter et qui a autant mis en scène l'aspect problématique de tout récit, et voir jusqu'à quel point c'était une espèce d'écrivain inné, non ? Enfin, il écrivait très lentement, avec un long travail de préparation, est-ce qu'on a pu juger une écriture mentale ou imaginaire avant la rédaction définitive ? Mais il n'y a aucun brouillon pour ce roman. Et il écrivait directement une version qui est presque parfaite. Et la seule, les corrections sont toutes des corrections de détails. Parfois, il y a la suppression d'un mot ou d'une date qui peut avoir un sens important par rapport à la construction du roman ou l'interprétation éventuelle du roman, mais autrement, nous étions extrêmement surpris dans ces temps de la mort de l'auteur, etc., de trouver, et quand nous avons été confrontés à ces matériels, une telle puissance d'écriture, hein, puissance de narration, cette puissance du verbe, une énergie impressionnante. Ces manuscrits sont des cahiers propres, impeccables, malgré son style qui a quelque chose à voir avec celui de Proust, c'est-à-dire une espèce de suite des subordonnées et des digressions qui peuvent durer 15 lignes, et ceci écrit d'un seul trait.
Oui. Et malgré la présence forte de contraintes, en plus. Voilà. Oui. Alors, Philippe Bataillon, je voudrais que vous parliez de l'homme, parce que vous l'avez bien connu, c'était devenu un ami, bien.
Ah oui, c'était un ami très cher et qui me manque beaucoup. J'ai fait sa connaissance quand Laure Bataillon, dont j'étais le mari pendant 30 ans, traduisait son premier livre, le premier livre qu'elle a traduit, qui n'est pas le premier livre qui a été traduit en français, et qui est un livre qui s'appelle « Limonero Real », qui a été traduit sous le titre « Les grands paradis ». Et le livre posait plein de problèmes, parce que c'était un livre très difficile. Et l'éditeur, qui était Gérard de Cortance, qui travaillait chez Flammarion à l'époque, a mis en contact Laure Bataillon et Essaer. Et il y a eu une espèce d'affinité pratiquement immédiate. Et on est devenus amis dans ces années. Ça a été publié en 74, donc ça devait être vers 72 ou 73. Et depuis, cette amitié ne s'est pas relâchée jusqu'à sa mort. Et c'était un homme cordial, sanguin, entier, discutailleur, enthousiaste, généreux, tout ça à la fois, ce qui fait qu'on passait des soirées où on buvait bien, parce qu'il aimait bien boire, et où on naviguait dans une espèce de consensus absolument formidable, où on s'engueulait comme des chiffonniers. Mais de toute façon, on se quittait toujours, bons amis. Il y avait ça avec lui. C'était un homme qui avait une espèce de réserve, de chaleur et de capacité à vivre qui était un modèle. Enfin, c'était vraiment très, très, très bien, quoi.
Oui, vous l'avez connu pratiquement peu de temps après son arrivée en France.
Oui, il est arrivé en 68, je crois. Oui. Et ça devait être vers 72, je pense, que c'était à l'époque où Laure a commencé.
Il enseignait déjà à Rennes à l'époque, c'est ça ?
Oui, il enseignait à Rennes à l'époque. Déjà, jusqu'à sa retraite, il a enseigné à Rennes, oui. Oui. Quoi dire de plus ? Eh bien, c'est un... Je crois savoir, d'après ce que m'a dit sa compagne, qui nous parlons souvent de lui, qu'avec la Grande, il avait un peu l'impression d'avoir fait le tour d'une espèce de boucle romanesque. Et elle dit, elle, qu'il avait des projets très différents en tête. Alors, je ne sais pas lesquels, ça, c'est, je ne le saurai jamais, probablement. Mais je vois à peu près ce que le roman posthume, La Grande, représente comme... On a l'impression qu'il a un peu rassemblé tout le monde, faisant même apparaître certains personnages un peu d'une manière un peu tangente, mais ils sont là quand même. C'est une impression. Je ne sais pas, je ne saurais pas dire. Mais il y a une chose quand même qui m'a frappé en lisant ce recueil de nouvelles, El Nasona, qui est le premier de ces recueils, c'est que la majorité des textes, qui sont le début du livre, qui s'appelle Zona del Puerto, la zone du port, sont un peu des histoires de mauvais garçons à la Borges, qui rappellent un peu l'homme au coin du mur rose ou des choses comme ça, avec des gens qui s'assassinent. Et ça, c'est une veine... Et c'est réussi, hein. Et dans ces textes se crée déjà une espèce de monde où les personnages à l'intérieur de ce monde de mauvais garçons sont des personnages récurrents. Il y en a qui réapparaissent, qui sont présents dans plusieurs textes. Et c'est un monde auquel il n'a pas donné suite. Voilà.
En somme, il a réussi, il a obéi au conseil que Eduardo Berti rappelait tout à l'heure, le conseil de Gombrowicz, disant « tu es Borges ».
Tu es Borges.
Il y est parfaitement arrivé.
Oui. Enfin, deux commentaires. D'abord sur la Grande. En fait, on a parlé d'une unité et en même temps, on a l'impression que régulièrement, tous les 10 ans, tous les 3 livres, ils étaient par-dessus bord les acquis des livres précédents. Enfin, il avait l'air de changer des routes totalement. Par exemple, il y a une période et qui comprend 4 livres, les années 70, où il a une écriture assez proche du nouveau roman, assez dont fait partie Les Grands Paradis, assez ardue et assez désespérée.
Et comment ?
Pour après, revenir sur une autre période, etc. Je veux dire, il y a constamment une mise en cause du système. Enfin, c'est pas stable, il se met en danger. Et par rapport à La Grande, il y a à la fois les phénomènes dont les titres renvoient beaucoup de choses, entre autres à la grande fugue de Beethoven. Et il y a dans La Grande cette réunion de toute l'œuvre précédente, mais en même temps une intention très forte de moderniser son univers narratif. Et c'est un roman qui est inscrit de manière très claire et très volontaire et très incisive dans la modernité, l'actualité, supermarché, et téléphone mobile, etc., toute l'évolution, Internet, etc. C'est-à-dire, une espèce d'aggiornamento de son propre univers et encore, on peut dire que c'est une conclusion, mais on avait bien l'impression que c'était le début de quelque chose. Et que fatalement, il avait un petit roman qui était la suite déjà préparé pour les continuer. Et par rapport à Borges, j'entendais la discussion tout à l'heure. Moi, je crois que ça a été, avec Pilia certainement, bien sûr, mais c'est lui qui était capable d'être le meilleur héritier, puisque c'est un héritier transgresseur qui est allé ailleurs. Mais ça a été un des premiers, en tout cas un des premiers à connaître un véritable succès, à revendiquer ou à lire un Borges transgressif, subversif, et non conservateur, contre les personnages qui étaient dans les années 60 et 70 dominants en Argentine, c'est-à-dire les patriarches des lettres associés à l'oligarchie et au gouvernement. Et c'est contre ces discours-là, et à partir de la gauche, ça a été un de ceux qui l'ont lu comme un écrivain révolutionnaire, comme on le lit aujourd'hui. Donc il a bien récupéré Borges, évidemment l'amenant ailleurs, et n'hésitant pas, dans les dernières années, à dénoncer la borgémanie, je ne sais pas comment... les cultes à Borges qui a secoué l'Occident.
Oui. Vous mentionnez, Julio Premat, pas une période nouveau roman, mais enfin une petite influence, un petit compagnonnage, en tout cas, à un moment. Alain Robbe-Grillet, qui aurait dû être parmi nous, qui ne peut pas l'être, pensait le plus grand bien, l'a dit à plusieurs occasions. Alors, quels étaient ses rapports avec la littérature française, avec les auteurs français? Est-ce qu'il avait un compagnonnage?
Oui, non, mais bien sûr, bien sûr.
Vu la chaleur du personnage, ce serait...
Disons que le nouveau roman occupe une place importante. Oui. Et il est venu en France en 68 avec une bourse pour faire une recherche sur le nouveau roman. Et il a fait des entretiens à Sarotte, Butor, Robbe-Grillet, etc. Donc, dès son arrivée en France, et je pense que le nouveau roman lui a servi, au-delà d'une influence éventuelle, et lui a servi d'arme contre la vision européenne de la littérature latino-américaine, du réalisme magique, etc. Donc lui, il s'inscrivait dans ce qui pouvait être le plus étranger à Garcia Marquez, qui était le nouveau roman.
Et même à Cortázar. Hein.
Oui. Et même à Cortázar.
Mais vous faites bien de rappeler l'époque, parce que c'est vrai que la perception que le public français a de la littérature latino-américaine a quand même beaucoup changé au cours des années.
Oui, et puis il n'a pas hésité à mettre les pieds dans les plats. Enfin, il n'a jamais hésité à mettre les pieds dans les plats, et même un peu au-delà. Et contre toutes les idées reçues sur la littérature latino-américaine, sur le nationalisme en littérature, sur toute espèce de détermination de l'écriture. Il disait la littérature est une littérature sans attributs, comme l'homme sans attributs, sans qualité.
Oui,
attributos, c'est la traduction espagnole. Oui. Sans qualité, et toutes ces prises de position publiques et esthétiques menaient toutes vers la même direction, créer un espace de liberté pour l'écriture. Et par rapport à la littérature française, évidemment, c'était un grand lecteur de littérature française et anglaise, mais le nom de Proust est très important.
Dans quelles circonstances l'avez-vous connu vous-même?
Avec ma propre production et critique, et ça a été une rencontre très, très émouvante et très marquante pour moi. Mais en même temps, vous savez, avec une très grande véhémence, il a refusé tout au long de sa vie d'apparaître en tant qu'écrivain, enfin de créer un personnage d'écrivain. Et il a exclu de manière très, très systématique sa biographie de ses interventions médiatiques, non, de plus en plus importantes les 10 dernières années, en tout cas à cause du succès. Et il a même, en 1986, on a publié en Argentine pour la première fois une anthologie de son œuvre. C'était très important. Il était méconnu en Argentine. Cette anthologie est une intervention forte, non, par rapport à ses lecteurs habituels, au naturel, qui serait les Argentins. Et on lui a fait, et il a écrit un texte en introduction où il intitule sa présentation biographique « Une concession pédagogique ». Et sa biographie a 5 lignes. C'est une manière très claire de dire « de cela on ne parle pas ». Mais pourquoi on ne parle pas ? Parce que la littérature, c'est dans les textes. Et toutes ces interventions allaient toujours dans le même sens. C'est le texte et pas l'homme. Enfin, les textes et pas l'écrivain et pas les mythes d'écrivain et pas la... Donc, du coup, par rapport à ça, et malgré l'envie qu'on a de parler de quelqu'un, hein, de respecter et d'admirer, bon, je crois qu'il faut parler de l'œuvre en parlant de lui, parce que c'était exactement son intervention. Il se serait manqué de tout autre discours.
C'est les textes qui l'intéressent.
Oui. Quel est son statut ? Vous dites en 86, une anthologie permet pratiquement de le faire découvrir du public argentin. Quel est actuellement son statut 20 ans plus tard en Argentine ? Est-ce qu'il est...
Il a eu une réception très tardive et difficile. Ouais. En partie à cause de la dictature qui a retardé la circulation de ses premiers grands textes, puisque la dictature commence en 76. On peut considérer que son premier grand roman, c'est de 69. Donc, au moment où on aurait dû commencer à les lire de manière importante, il y a eu la dictature. Puis, il a été lu d'abord à partir de l'université. C'est l'université qui l'a lu d'abord. Il y a quelques grands noms de l'université en Argentine qui l'ont mis dans des programmes juste après la dictature. Ils l'ont fait connaître, mais qui l'ont à la fois fait connaître et lui ont porté un tort involontaire. Il a été pendant longtemps considéré comme l'écrivain pour universitaire, pour critique, compliqué et ardu, etc. D'autant plus d'ailleurs que ça coïncidait avec la période Nouveau Roman. Mais depuis, je dirais, 1994 en particulier, où il a publié une espèce, disons, de roman policier, et qui a eu un succès important des ventes, depuis 1994, il était considéré comme le plus grand écrivain argentin. Je pense que cette place était, depuis au moins 10 ans, parfaitement reconnue.
Oui. Alors, je vais vous poser une question impossible à l'un et à l'autre, mais quel est le livre de Saher que vous préférez, pour lequel vous avez le plus d'affection ? Vous allez me dire tous, bien sûr, mais si vous deviez en choisir un particulier...
Le plus d'affection, je ne vous répondrai pas. Le plus d'admiration, je crois que c'est l'anniversaire que vous avez là.
Oui.
Pour moi, c'est le...
Celui dont vous parliez tout à l'heure.
C'est un livre d'une espèce de perfection qui donne un bonheur à lire, qui est d'une espèce de richesse dans les circulations du récit, de la pensée, de mêlée à la circulation des personnages dans la rue, c'est une espèce de réussite pour moi, vraiment vraiment superbe. C'est celui que j'admire le plus, mais je les aime tous presque autant. Non, la période Nouveau Roman n'est pas la période qui m'enchante le plus, parce que c'est... Il y a une espèce de volonté d'être ardu et de volonté de se mettre soi-même à mal, qui est une chose qui me fait un peu mal à moi.
Bon, moi, je suis d'accord sur l'anniversaire. Je dirais que c'est... Oui, il y a cette perfection formelle. Et c'est un livre très, très émouvant, très désespéré. n'est-ce pas, très chaleureux, qui voilà, très désespéré dans sa vision du monde, et il est beaucoup question de la mémoire et de la dictature. C'est vraiment c'est un livre très pessimiste, mais en même temps un livre où il y a une jouissance de la parole et de l'amitié qui est, c'est aussi un livre heureux dans les discours et dans l'humour, non, parce qu'il a un humour extraordinaire.
Oui, ça c'est quelque chose qu'il faut souligner, c'est désespéré mais sans pathos.
Non, pas du tout, ouais. Parce que comme les vrais désespérés, n'est-ce pas, les ironistes, hein, ouais. Ceux que on fait des blagues pour transmettre les désespoirs.
C'est vrai qu'on a
parce qu'on sait qu'il n'y a pas de réponse possible.
On n'a pas parlé de son humour, c'est vous qui venez de prononcer le mot, mais qui est très important.
C'est la politesse du désespoir, ouais, l'humour,
n'est-ce pas,
ouais. Alors, est-ce qu'il est peut-être un peu tôt pour poser cette question, puisque finalement, son œuvre, en tout cas en Argentine, est reconnue pas depuis très très longtemps, mais est-ce qu'il a déjà fait des émules, pas seulement en Argentine, est-ce que vous percevez en tant que critique, en tant que spécialiste, est-ce que vous percevez une descendance de ça,
oui,
ou
non,
tout simplement,
bien.
Est-ce que c'est pas possible?
Et bien sûr, hein, non, il y a une descendance, il y a une marque dont on peut discuter, et c'est quand même l'écrivain qui a écrit les projets romanesques les plus ambitieux de la littérature argentine. Personne n'a écrit quelque chose d'aussi vaste. Il y a 12 romans, en plus des nouvelles, etc. Mais enfin, avec une ambition, il n'y a pas d'autre exemple. Donc je pense que c'est déjà un modèle en circulation. Il y a un écrivain qu'on associe souvent à lui, peut-être trop pour le pauvre écrivain, mais qui est un écrivain très intéressant, il s'appelle Sergio Chaffetz. Mais il y a une marque, ça a de plus en plus visible dans les écrivains à venir. Simplement, il faut voir qui va le lire mal, enfin, qui va subir une influence transgressive et qui fera autre chose. Non,
c'est lui qui sera
le meilleur lecteur.
Oui, voilà. Qui va savoir le brûler après l'avoir lu.
Ouais.
N'est-ce pas ? Comme tuer Borges.
Voilà. On n'a malheureusement pas beaucoup de temps. Il faut qu'on termine vraiment un peu avant 8 heures, parce qu'il y a une deuxième table ronde à 8 heures. Donc je voudrais tout de suite vous demander si vous avez des remarques ou des précisions ou des questions. Oui, alors il y a déjà une question. Alors attendez, on va vous passer le micro. Oui, monsieur.
À mon avis, le micro n'est pas allumé.
Voilà. S'il n'aimait pas qu'on parle de l'homme, peut-être s'est-il exprimé auprès de vous qui avez travaillé avec lui sur ce qui aurait été pour lui la meilleure façon de découvrir son œuvre, de l'aborder. Et puis, si vous permettez, une question tout à fait anecdotique, mais vous avez cité parmi les nouvelles de jeunesse cette nouvelle qui s'appelle Le Tango du Veuf. Y a-t-il un rapport avec le poème éponyme de Neruda?
Là, je ne saurais pas répondre à la deuxième partie de la question. Quant à savoir comment il aurait pensé lui-même qu'il fallait aborder son œuvre, j'imagine pas qu'il ait pu se poser ce genre de questions. Je vois pas très bien comment on pourrait répondre, entre guillemets, à sa place, à cette question, je ne sais pas.
Oui, enfin, les sérieux de cette question auraient suscité une réponse ironique et un peu sanglante de sa part. Ce que je peux dire, c'est quand il y a eu le projet de faire cette édition critique de d'un roman à lui, moi, je proposais L'anniversaire et l'ancêtre, et ça lui a semblé une très bonne idée. Alors, est-ce que c'est... Il m'a dit, bien sûr, l'ancêtre. L'anniversaire, bien sûr. Mais bon, on n'aurait jamais pu lui faire dire que son avis était plus valable que l'avis de quelqu'un d'autre sur son œuvre. Enfin, il n'aurait jamais voulu occuper cette place-là.
Et puis, il aimait bien faire travailler le lecteur. Dans un de ses romans, il y a une espèce de fiction qui est qu'un ami en Argentine envoie... les personnages à Paris, une disquette sur laquelle il y a un texte, etc. Et ce texte devient le corps du roman après. Bon. Et entre les deux, faisant la liaison entre cette espèce de prologue et le texte, il y a une phrase qui était une phrase absolument épouvantablement compliquée et pour le plaisir, vraiment pour le plaisir. Et
pour les traducteurs.
Oui, j'ai vraiment beaucoup transpiré sur cette phrase et je lui ai montré ma version. Il m'a dit « Ah, t'en es pas mal tiré quand même, c'est pas mal. » Et je dis « Mais pourquoi t'as fait ça ?» Il m'a dit « Il faut faire travailler le lecteur. » Il m'a dit.
Et le traducteur. Quel rapport vous aviez en tant que traducteur, justement ? Il intervenait, parce qu'il s'exprimait parfaitement en français.
Il n'intervenait jamais, mais je lui ai soumis tous les textes des livres que j'ai traduits. Et chaque fois, il m'a relevé quelques erreurs et il m'a apporté des précisions, parce que j'avais souvent des précisions sur des ambiguïtés possibles dans le texte. Il m'a toujours, avec une gentillesse, une bonne volonté et un sérieux qui lui coûtait beaucoup, parce qu'il s'agissait quelquefois d'œuvres qui avaient plus de 20 ans pour lui, il m'a toujours répondu avec plus que de la courtoisie, avec amitié, vraiment.
En tout cas, si la question était de savoir par quelle œuvre éventuellement aborder pour une première lecture, je crois qu'il y a une espèce d'unanimité quand même sur l'anniversaire qui se dégage. Une autre question, une autre remarque ?
Oui, je veux bien poser une question sur l'intitulé général. Ça s'appelle « D'encre et d'exil » pour ces manifestations. Quelqu'un qui passe près de 40 ans à Paris, est-ce que vous avez trouvé les uns et les autres une présence de la langue française, par exemple, qui venait peu à peu dans sa langue espagnole, ou pas du tout, c'est quelqu'un qui restait totalement hermétique au bain francophone dans lequel il était.
Moi, j'y réponds, mais certainement, tu en as une autre.
Oui,
mienne, c'est en travaillant en détail pour l'édition génétique, on a bien trouvé quelques gallicismes ici ou là. Que pour les lecteurs et moi-même, entre deux langues, m'était passé inaperçu dans la lecture naturelle. Mais c'est un écrivain qui s'est construit un idiolecte à un moment donné de sa production, et qui était marqué par l'argentin ou par l'espagnol aux tonalités argentines, mais qui était sa langue à lui, ni française ni argentine. Donc il y a un style, un type de langage au-delà des lieux de séjour, je crois, par rapport à la langue.
Philippe, oui, moi, il m'a semblé, moi aussi, repérer quelques expressions qui étaient bien proches du français. Mais bon, en tant que français, moi, je n'ai pas sursauté en les lisant. C'est à la relecture, je me disais, mais c'est bien près du français, ça. Voilà, il y avait ça. Et puis... c'est tout.
Beaucoup moins que Cortázar. Hein. Beaucoup moins que Cortázar, où il y a des choses incroyables.
Ah oui, Cortázar, oui, il était beaucoup plus francisé, beaucoup plus... oui, beaucoup plus.
Mais à l'inverse, alors, quels étaient ses rapports avec l'Argentine récemment, disons ? Il y retournait
Oui, il y retournait régulièrement. Il y avait évidemment une sollicitation maintenant éditoriale et médiatique importante à son égard. Et puis, il revenait à sa ville natale, Santa Fe. Il y avait de la famille, etc. Donc, il y avait une relation très, très fluide, y compris sur les plans, par exemple, politiques. Bon, les derniers événements politiques en Argentine, autant la crise que le gouvernement actuel, ont été suivis de près avec des interventions de sa part, parfois. Donc, il était présent, bien sûr.
Une autre question ?
Non. Oui, il y a une question au fond, je crois, tout au fond, là-bas.
Attendez, on va vous passer le micro, sinon on ne vous entendra pas bien.
Personne n'en profitera.
Mais je l'ai découverte en lisant El País, parce qu'il écrivait des chroniques ou des essais, je ne sais pas, mais c'est un peu différent. Et aussi, il y avait des entretiens avec lui, donc il parlait... beaucoup, là. C'est intéressant, cet autre volet qui n'est ni la France ni l'Argentine. Mais il y a cet autre volet aussi, l'encre et l'exil, c'est qu'il était en fait d'origine syrienne, si je ne me trompe pas, non ? Sa famille. Et il en parlait dans un entretien ou un autre. Et je trouve ça aussi, c'est une expérience qui nourrit la personne. Mais est-ce que vous avez des choses à apporter ? Parce que ça veut dire... C'est un peu comme, c'est pas un changement de pays. C'est, il y a en lui, il y a trois, quatre, cinq cultures, vous voyez.
Oui, qui peut...
Bon, c'est assez argentin, ça, non?
Oui.
C'est vrai que sa position par rapport à ça est associée à ce que je disais tout à l'heure sur une littérature sans qualité. Et donc, il a beaucoup postulé, beaucoup affirmé une espèce d'atterritorialité de la littérature contre les contraintes de l'exil, contre les devoirs de l'engagement, même si sa littérature est une littérature très éthique sur le plan politique, et contre toute appartenance. C'était ses déclarations. Donc la littérature comme une seule patrie, la littérature, tous les écrivains, disait-il, vivaient dans la forêt épaisse du réel. Et ils étaient tous exilés du seul fait que c'est le destin de tout homme. Et dans les faits et dans la réalité, les marques de son lieu d'origine et de son enfance et de sa jeunesse dans son œuvre sont très très importantes, et je trouve qu'il était très très marqué par l'Argentine et plus encore par Santa Fe. Donc voilà. Mais c'est vrai aussi que c'est un fils des Syriens, non?
Mais oui, on trouve toujours des personnages qui sont le El Turco, comme on dit là-bas. On dit le Turc parce que les Syriens du temps de l'Empire ottoman avaient un passeport turc en arrivant. Mais dans pratiquement tous les livres, il y a un personnage qui est de cette origine ou qui reproduit un peu la situation de sa famille où son grand-père était épicier dans un village, enfin épicier... C'était le magasin où on vendait tout. On retrouve ces choses-là souvent dans ses romans. C'est une chose qui lui tenait à cœur, certainement.
Une dernière remarque ou une dernière question? Non? Alors, simplement, une précision que je voudrais vous demander, Philippe Bataillon. Donc, vous êtes en train de traduire ce dernier roman inachevé que vous avez évoqué. C'est pas pour vous presser dans votre travail, mais quand pourra-t-on le lire?
Écoutez, là, je ne sais pas quoi vous dire, parce que c'est Le Seuil qui va certainement le publier, comme il a publié toutes les dernières œuvres de Saher et repris un certain nombre d'autres en collection Point. Je pense que les éditeurs argentins et Le Seuil sont en négociation actuellement, et je ne devrais pas dire que j'ai commencé à le traduire parce que ça ne se fait pas, mais je n'ai pas pu m'empêcher. Voilà, c'est tout. Je ne peux pas vous dire plus.
Donc c'est en bonne voie, on peut espérer le lire bientôt. Alors, juste une petite précision, s'il vous venait l'envie justement de vous jeter sur les livres de Saher, il n'y en a pas ici précisément, mais vous pouvez les trouver bien entendu à la librairie du centre, à la librairie Flammarion, qui est, je ne sais pas quel est le niveau exactement, mais un petit peu au-dessus de nous. On ne peut pas évidemment faire le tour d'une œuvre aussi considérable en moins d'une heure, mais j'espère que ce petit entretien vous aura donné l'envie de découvrir ou de redécouvrir Saher. En tout cas, merci à vous deux, Julio Premat et Philippe Bataillon. Merci et bravo à tous les deux. Et nous allons laisser la place à vous. Dans 5 petites minutes, le temps de changer de plateau aux figures féminines.